18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Ça passe ou ça casse, comme on dit. C'est-à-dire que tout se joue en 7 minutes, tout doit se dérouler sans délai, sans aucun bug informatique par exemple, sinon c'est le crash.
7 minutes de terreur, comme disent les spécialistes. Ce soir, aux alentours de 22h, si tout va bien, un robot de la NASA devrait se poser sur la planète Mars. Sa mission est capitale, contribuer à la recherche de traces de vie passée sur la planète rouge.
Lord d'Autriche nous expliquera très concrètement en quoi consiste cette mission et on sera à Toulouse, qui a participé à la conception de la super caméra de ce robot.
N'habituons pas les Français à vivre avec le virus, mais avec zéro virus. C'est l'appel lancé par plusieurs grands spécialistes alors que le ministre de la Santé tient un nouveau point presse ce soir.
Un choc sans précédent dans l'aérien. Le chiffre d'affaires d'Air France KLM s'est effondré l'an dernier. Le groupe a perdu, tenez-vous bien, plus de 7 milliards d'euros.
La condamnation de Georges Tron à 3 ans de prison ferme. Même la plaignante qui a été déboutée est satisfaite de ce verdict. Nous l'entendrons.
Des bijoux, des lingots d'or et des pièces d'or. Un sacré trésor découvert dans une arrière-boutique en plein Paris. Trésor pas très légal. Nous dira tout de même Gladys Lafitte.
Et puis pas de JT à la mi-journée sur TF1. Un gros problème technique a empêché sa diffusion. La Bourse de Paris a clôturé ce soir en baisse de 0,65% à 5728 points.
La météo Anissa Haddadi. Bonsoir
c'est
Anissa.
Moi. Bonsoir Julien.
Un temps plus sec demain.
Oui, sur l'ensemble du pays, c'est effectivement le retour des éclaircies après la dissipation des nombreux brouillards. Attention, prudence sur les routes demain matin. Les températures, elles seront fraîches le matin, mais grimpent bien dans l'après-midi. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et l'actualité va donc se dérouler ce soir à quelques millions de kilomètres au-dessus de nos têtes. Vous entendez ce petit bruit ? Fermez les yeux, on est sur Mars, ou presque.
Oui. C'est pas un robot de cuisine. Hein. Si tout va bien, après 7 mois de voyage, le robot Persévérance, c'est son nom, de la NASA, devrait donc se poser sur la planète rouge aux alentours de 22h, heure française.
Et pour les spécialistes, l'attente va être longue, très longue, Lord d'Autriche, parce que ce qui se passe en ce moment, ce soir, hein, c'est vraiment très important, car grâce à ce petit robot, on espère trouver des traces d'une forme de vie sur Mars.
Oui, exactement. Impossible aujourd'hui de trouver de la vie, des bactéries. La planète est sèche et aride, il fait moins 80 degrés la nuit, Mars n'est pas très accueillante. Mais des traces de vie, oui. Parce qu'il y a 3 milliards et demi d'années, on sait qu'il y avait de l'eau liquide à la surface, des lacs, des rivières. Et ce robot baptisé Persévérance va justement atterrir dans un cratère qui auparavant était un lac. On est presque sûr qu'il y avait à cet endroit des choses qui ressemblaient à ce qu'on a sur Terre. De la boue au fond du lac, des minéraux comme des carbonates qu'on a aussi sur Terre. Et le gros atout de ce robot, c'est qu'il est capable de choisir les meilleurs échantillons, de dire ce caillou est meilleur que celui-ci. Il mettra les échantillons dans des tubes et puis on va les laisser sur le bord du chemin, si j'ose dire. Et dans quelques années, une autre mission ira les chercher pour les rapporter sur Terre. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore redécoller de Mars.
Alors, Laure, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas gagné d'atterrir sur Mars. Hein, c'est un vrai défi.
Ah oui, sur la Lune, c'est plus simple, mais freiner en arrivant sur Mars, c'est délicat. Une mission sur deux est un échec. L'atmosphère est très petite, la gravité est forte. Il faut donc combiner plusieurs techniques pour atterrir. On appelle cela les 7 minutes de terreur. Tout est automatique, on ne peut plus rien corriger. Des années de travail peuvent être pulvérisées en quelques secondes, finalement. Les scientifiques recevront sur leurs écrans des bip-bip lorsque le bouclier thermique sera largué, que le parachute va s'ouvrir. Bref, quand chaque étape sera franchie.
Et on sait en tout cas à quoi vous allez passer votre soirée. Merci beaucoup, Lord d'Autriche.
Voilà, c'est passionnant comme récit. On va aller maintenant à la Cité de l'Espace à Toulouse, où la communauté scientifique aura, elle aussi, les yeux rivés sur Mars.
Oui, d'autant plus que Toulouse est directement impliquée dans cette mission, Benjamin Peter.
Oui, ici à Toulouse, on a notamment conçu l'instrument Supercam et une semaine sur deux, elle sera pilotée depuis le CNES. Ici, on va notamment tirer au laser sur des roches pour les analyser. Ces données, c'est notamment Agnès Cousin, qui est géologue à l'IRAP, qui va les recevoir. Alors en attendant l'atterrissage, elle ne tient plus en place.
On n'arrive pas à se poser, lire un truc. Enfin, c'est très stressant. Si là, l'atterrissage se passe bien, on peut imaginer que oui, dans 10 ans, on travaillera toujours sur Persévérance et Supercam.
Au bout de la Supercam, il y a notamment un micro. Et c'est la première fois qu'on va entendre scientifiquement ce qui se passe sur le sol martien. C'est notamment Baptiste Schied qui aura la chance d'écouter ces sons dans son casque.
l'atmosphère de Mars. Vous savez, elle est très turbulente, très dynamique. Je vais générer du vent qu'on va pouvoir entendre sur le microphone. Ces détonations induites par le laser qu'on va pouvoir entendre, qui vont nous permettre de déterminer les propriétés mécaniques des roches, par exemple leur dureté. C'est incroyable. Moi, je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir bosser cette mission et de pouvoir regarder les premières données quand elles vont redescendre sur Terre.
Voilà, alors ce soir, c'est donc l'atterrissage. Demain soir, le bras de la Supercam devrait se déployer. Et si tout va bien, les premières données devraient arriver mardi, au petit matin. Et pour ça aussi, ils ont réglé leur réveil pour ne surtout pas les louper.
Évidemment, Benjamin Péter à la Cité de l'Espace à Toulouse. Retour à des préoccupations plus terriennes. Nous sommes jeudi, et le jeudi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le point presse du ministre de la Santé, forcément.
Qui ne devrait pas annoncer de nouvelles restrictions, mais renouveler les appels à la prudence, car le Covid est toujours bien installé en France.
Alors ces points presse, on a fini par s'y habituer. Ils rythment nos semaines depuis le début de la pandémie, et c'est une bonne chose, disent plusieurs spécialistes. Il faut continuer à maintenir la pression, tout en essayant toujours, bien sûr, d'éradiquer le virus.
Mais surtout pas ne s'habituer à vivre avec, comme le dit Emmanuel Macron. Antoine Flahaut, épidémiologiste et directeur de l'Institut Santé Globale de Genève. Pour lui, il n'y a pas d'autre stratégie que le zéro Covid.
On n'accepte pas, on ne vit pas avec ce virus. On fait tout pour lutter contre le virus. Et c'est un peu ce que l'on appelle la stratégie zéro Covid, ou en tout cas de suppression très forte de la circulation du virus, qui définit et qui qualifie des zones vertes où il y a très peu de circulation, à l'intérieur desquelles on peut avoir une vie sociale normale, mais aussi une mobilité normale d'une zone verte à une autre. Alors, ce que je pense, c'est que quand on est dans une période de plateau qui n'est pas flambante d'épidémie, c'est le moment pour discuter de ces options. Parce que vous avez déjà des mesures très fortes en France, et ça ne permet pas de descendre. Donc il faudrait peut-être un coup de collier, mais c'est à vous de le décider. C'est à la représentation nationale, c'est au pouvoir exécutif. Les scientifiques sont juste là pour essayer de préparer l'après.
Voilà, c'était l'épidémiologiste Antoine Flahaut, joint pour Europe 1 par Caroline Baudry.
À Dunkerque, où les chiffres sont à l'opposé de la moyenne nationale, le nombre de cas positifs explose, celui des variants aussi. Une grande campagne de dépistage a été lancée aujourd'hui. Objectif, casser les chaînes de contamination. Et puis vous savez quoi ? Il y aura bien des festivals l'été prochain. Les organisateurs avaient rendez-vous tout à l'heure avec la ministre de la Culture pour discuter des conditions de reprise. Et c'est donc une très bonne nouvelle. On pourra assister à des festivals cet été, mais avec des règles très strictes. Pas plus de 5000 personnes en plein air. Et tout le monde devra obligatoirement être assis à bonne distance les uns des autres. On vous donnera tous les détails à 19h avec Angèle Châtelet.
Des festivals assis, ça va être compliqué à mettre en place. On verra ça tout à l'heure. 18h07, un trou d'air dans les comptes et un sacré trou d'air dans les comptes d'Air France KLM.
La crise qui affecte l'ensemble du secteur aérien impacte très lourdement le groupe franco-néerlandais. Aurélien Fleureau, les chiffres donnent le tournis.
Oui, et c'est l'expression qu'a employé ce matin le directeur financier du groupe Air France KLM après avoir annoncé la perte de plus de 7 milliards d'euros en 2020, la chute du chiffre d'affaires de 59% en un an et la disparition de 67% des passagers, le tout dans un contexte toujours difficile avec la fermeture d'une partie des frontières lors du premier trimestre 2021. Le groupe table pour cette année sur un retour de 40% de son trafic de l'année 2019 et sans les aides gouvernementales, c'est l'existence même du groupe Air France KLM qui aurait été remise en cause, a admis ce matin Benjamin Smith, son PDG.
Sans les plus de 10 milliards d'euros d'aide de nos actionnaires principaux, les États français et néerlandais, nous n'aurions pas survécu, ni le groupe, ni aucune de nos compagnies.
Et le sauvetage passera à court terme par un nouveau coup de pouce des gouvernements français et néerlandais. Les prêts garantis par l'État pourraient se transformer en fonds propres pour les compagnies, mais pour cela, Bruxelles demande des contreparties, notamment sur le nombre de créneaux accordés dans les aéroports, en particulier à Orly pour Air France. Pas de blocage, mais ça prend du temps, a affirmé ce matin la direction du groupe.
Les précisions d'Aurélien Fleureau du service Écho d'Europe 1. La condamnation hier soir de Georges Tron à de la prison ferme.
Oui, 3 ans ferme contre le maire de Draveil, ancien secrétaire d'État. Après plus de 11 heures de délibéré, la cour d'assises de Paris l'a reconnu coupable de viol et agression sexuelle en réunion sur l'une de ses anciennes collaboratrices. Virginie est-elle ?
Oui, elle l'a en revanche acquittée de faits similaires sur l'autre plaignante, Eva Loubrieux. Cette dernière n'a donc pas été officiellement reconnue comme victime, mais pour elle, l'essentiel, c'est que Georges Tron soit condamné.
Hier soir, j'ai eu un moment de désespoir. En entendant le verdict, je suis sortie du tribunal et M. Tron est arrivé avec les menottes et a été conduit dans la camionnette de la gendarmerie. C'est quelque chose qui restera gravé pour moi. Cette décision a énormément de sens parce que c'est tout un process, c'est tout un comportement qui a été révélé. Et ce verdict est pour moi un peu plus satisfaisant.
Même si vous n'êtes pas reconnue en tant que victime.
Oui, totalement, totalement. Je me sens reconnue en tant que victime et je pense que vraiment justice s'est tenue.
Est-ce que vous êtes dans la vengeance ?
Ah non, pas du tout, non. Écoutez, c'est pas de la vengeance, je n'ai plus à avoir peur. Je suis de nouveau une femme libre et j'ai été entendue. Peut-être pas forcément de la manière dont j'aurais pu l'espérer, mais j'ai été entendue. Et aujourd'hui, je me sens libre.
Un témoignage recueilli pour Europe 1 par Guillaume Bié. On précise que la cour d'assises a également prononcé une peine de 6 ans d'inéligibilité contre Georges Tromp.
Cette histoire maintenant que vous révélez Europe 1 à la mi-journée, des policiers ont découvert hier en plein Paris une fonderie d'or clandestine.
Dans une arrière-boutique, Gladys Laffitte, à l'intérieur, il y avait un vrai trésor.
Ah oui, des bijoux, des montres, des lingots d'or, des pièces d'or et même des diamants ainsi que 125 000 euros. En liquide et bien sûr tout l'attirail pour faire fondre tout ce qu'il était possible de faire fondre dans ce précieux butin, suspecté de provenir notamment de vols à l'arraché. Alors le gérant de ce laboratoire photo à l'origine est un Sri Lankais de 55 ans de la communauté tamoule. Il est suspecté de recel de vol, de blanchiment en bande organisée et de travail dissimulé. Et si les policiers se sont intéressés à sa boutique, ce n'est pas par hasard, car il y a une dizaine de jours, une première fonderie artisanale a été découverte dans le sous-sol d'un autre de ses commerces, de textiles cette fois. Les enquêteurs de la BRIF, la Brigade de Recherche et d'Investigation Financière, cherchent à connaître la destination finale de ce magot et selon nos informations, il est suspecté d'être un proche des Tigres, le gérant. Donc les Tigres, les séparatistes sri-lankais, il pourrait donc s'agir d'un collecteur pour l'organisation.
Merci Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Les spectateurs de TF1 ont eu une drôle de surprise à la mi-journée. La présentatrice du JT, Marie-Sophie Lacaro, était bien là, mais elle n'est pas restée longtemps et pour cause.
Aujourd'hui, c'est totalement inédit. Nous n'allons pas pouvoir vous proposer votre journal de 13h. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser un seul reportage. Nous avons ici un énorme problème technique. Alors, croyez-le bien, nous en sommes évidemment désolés.
Bonsoir Eva Roch.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Journaliste média sur Europe 1. Eva, un JT annulé, on n'avait jamais vu ça. Hein.
Non, c'est une première. TF1 va se souvenir longtemps, je pense, de ce 18 février, parce qu'il était 12h58 quand Marie-Sophie Lacaro est bien apparue à l'écran, mais pour quelques secondes seulement, le temps d'annoncer qu'elle ne peut pas présenter le journal en raison d'une panne technique. Alors, c'est une panne qui est intervenue une dizaine de minutes auparavant et qui empêche la diffusion de tous les reportages. LCI, au même moment, est d'ailleurs impactée par ce bug géant. Alors, évidemment, en coulisses, les équipes sont stupéfaites. Ça ne s'est jamais produit. Tout le monde a gardé son calme. Les journalistes étaient même prêts à aller sur le plateau pour évoquer les sujets qui auraient dû être illustrés, en fait. Et puis finalement, à l'antenne, eh bien, les téléspectateurs ont découvert la rediffusion d'un reportage sur les jonquilles et le mimosa avant que, 37 minutes plus tard, donc Marie-Sophie Lacaro ne revienne à l'antenne pour présenter enfin le journal.
Mais est-ce qu'on sait ce qui s'est passé ? On parle beaucoup de cyberattaques en ce moment, notamment dans les hôpitaux. C'est vraiment un gros problème technique, comme l'a dit Marie-Sophie Lacaro ?
Alors, selon un communiqué de TF1, c'est le cas. Il s'agit d'un gros problème technique, un bug du logiciel qui gère ce qu'on appelle le conducteur du trésor. Le conducteur, c'est une sorte de sommaire. Et un logiciel qui gère aussi tous les reportages. Donc, sans ce logiciel, évidemment, impossible de proposer le journal. Les équipes se sont mobilisées toute l'après-midi pour résoudre cette panne. Et dans le communiqué, le groupe TF1 a quand même jugé utile de préciser que ce n'était pas une cyberattaque. En réalité, si c'était le cas, évidemment, la chaîne se garderait bien de l'énoncer.
Et donc ce soir, le 20h pourrait être diffusé ?
Le 20h sera diffusé. Les téléspectateurs vont pouvoir retrouver Gilles Boulot à 20h et Marie-Sophie Lacaro demain à 13h.
Merci beaucoup Eva Roch, journaliste média à Europe 1. Un mot de sport rapidement. Du foot, Lille-Ajax Amsterdam ce soir à partir de 21h. 16e de finale aller de la Ligue Europa. On vous en reparlera à 19h. Et puis du tennis, Novak Djokovic en finale de l'Open d'Australie. Le numéro 1 mondial a battu le russe Karatsev. Il affrontera le vainqueur de la rencontre Tsitsipas-Medvedev.
C'était le journal d'Isabelle Millet. On vous retrouve évidemment à 18h30 pour le rappel des titres. La météo, Anissa, avec le retour des éclaircies et encore tout de même quelques petites gouttelettes.
Oui, au bord de la Méditerranée, Julien. Hein, l'atmosphère est encore un petit peu humide demain avec des entrées maritimes et puis des averses jusque sur les Cévennes. Des averses qui vont durer toute la journée. Sur les côtes de la Manche, en Bretagne et dans le Cotentin, là aussi, on aura un temps un petit peu plus couvert avec quelques petites gouttes tout au long de la journée et partout ailleurs, entre donc la Bretagne et la Méditerranée. Le temps est sec, mais attention, demain matin, sur toutes les régions sauf les Alpes, nous aurons des brouillards matinaux qui seront très fréquents, très épais parfois, notamment au nord de la Loire. Dans l'après-midi, les nuages bas vont se dissiper. Attention, dans le Val-de-Loire, la région parisienne et le centre-Val-de-Loire, sur ces trois régions, les brouillards seront tenaces et auront du mal à se dissiper demain après-midi. Bon, dans l'ensemble, c'est une journée plutôt sympa, calme, agréable. Sur le Lyonnais et le Massif central, on a toujours ce vent du sud qui souffle jusqu'à 70 km/h, tout comme sur les côtes de la Manche. Les températures, 2 à 10 degrés demain matin. On aura même des petites gelées matinales sur la moitié nord.
Tiens.
Mais dans l'après-midi, ça grimpe à nouveau. Bah forcément, on a moins de nuages. Mmh. Donc du coup, les températures sont un petit peu plus fraîches. Dans l'après-midi, 11 à 15 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 18 en Auvergne. Et 22 degrés dans le sud-ouest.
Évidemment, ce que je retiens, c'est que c'est une journée sympa demain.
Sympa.
Ben voilà, vous avez éclairé notre soirée.
Ça sera mieux ce week-end, mais demain, c'est sympa.
Ça sera mieux ce week-end. Merci Alice, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invité à 18h17, il est pédopsychiatre et directeur de recherche à l'INSERM. Il alerte depuis plusieurs jours sur les conséquences de la crise sanitaire sur un possible choc générationnel. Bonsoir, professeur Bruno Falissard.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors, avant de parler de cette fracture entre les générations qui vous inquiète, je voudrais qu'on dise un mot d'abord sur la situation sanitaire et ses chiffres qui continuent de baisser. Tous les indicateurs reculent en ce moment. Quelle conclusion vous en tirez ?
Oui, ça baisse un peu. Moi, je dirais plutôt qu'on est à l'équilibre. D'ailleurs, c'est ce qui est assez rare dans une épidémie. On est à l'équilibre entre, d'un côté, un couvre-feu assez drastique, de l'autre côté, des nouveaux variants, etc. C'est stable, c'est pas la catastrophe, c'est pas bon non plus, il faut espérer qu'à
c'est
force de
vaccins... C'est surprenant quand même, c'est assez surprenant, on s'attendait plutôt à une explosion et à une nouvelle vague.
Oui, absolument, mais bon, on a quand même un couvre-feu assez drastique. Hein.
Oui, oui, vous pensez que c'est ça qui fait effet sur la contamination du virus et qui limite le nombre de contaminations. Alors, sur ce que vous qualifiez de choc générationnel, c'est très intéressant ce que vous dites et ce que vous écrivez, c'est paru dans Le Monde il y a quelques jours. Pourquoi êtes-vous si inquiet, professeur ?
Ben, je suis inquiet d'abord parce que ça fait un certain temps que je m'occupe d'enfants, d'adolescents, que j'ai des étudiants et que je vois qu'ils sont en stage, en CDD, et que les plus vieux, ils sont en CDI. Mmh. Et puis qu'il y a quelques années, il y avait la retraite et on disait « Ah ben oui, mais c'est normal, on part tôt, ben oui, mais qui va payer ? Mettez-vous à la place des jeunes. » Ils se disent « Eux, ils ont tout, nous on va payer leur retraite et nous on n'aura pas grand-chose après. »
Oui, ça rejoint d'ailleurs, professeur, ce que pensent aussi beaucoup de Français. Une enquête au Doxa révèle que 56% des Français craignent un conflit de génération entre les personnes âgées et la jeunesse, suite à ce que vous évoquiez, la crise sanitaire. Dans quel sens est-elle la plus grave, cette possible crise entre les générations ? Est-ce que c'est plutôt les jeunes qui en veulent aux plus âgés ou inversement ?
Alors d'abord, dans toutes les sociétés, les jeunes en veulent aux plus âgés d'être là, ils aimeraient prendre leur place.
C'est structurel, ça.
Voilà, et les vieux, ils n'aiment pas les jeunes parce qu'ils font du bruit, parce que les jeunes sont beaux, et puis que quand on vieillit, on est moins beaux, et puis voilà.
Mais l'idée d'une génération sacrifiée, confinée, pour sauver une génération peut-être dorée, plus vulnérable au Covid, ça revient beaucoup, ça, dans l'esprit des jeunes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir au micro d'Europe 1 à ces jeunes, et peut-être à ces moins jeunes, qui craignent aussi ce regard de la jeunesse ?
Ben d'abord, il faut dire les choses. Oui, nous avons décidé en France et dans d'autres pays qu'il fallait protéger les personnes les plus âgées et que les jeunes en ont payé les pots cassés.
C'est vraiment vécu comme une injustice, ça ?
Ben, c'est une injustice.
C'est une injustice.
Ben oui, c'est une injustice.
Et alors, comment vous l'expliquez, vous, aux jeunes que vous voyez en consultation ?
Alors d'abord, moi, je leur dis que c'est pas juste qu'on le dise pas. Parce que déjà, il faudrait le dire. Et souvenez-vous ce qu'on a dit en novembre, en octobre. Ah, c'est à cause des jeunes, ils se retrouvent quand même, ils font la fête, et voilà, ils sont pas bien.
Alors, on les a trop culpabilisés.
Mais c'est une double peine.
Oui.
Non seulement, en fait, le virus ne leur fait pas grand-chose, mais en plus, on les enferme chez eux. Normalement, ils vont au lycée, à la fac, ou dans les cafés, pour draguer, etc. Et là, c'est fini. Et en plus, on leur dit que c'est à cause d'eux qu'il y a l'épidémie. Donc, à la fin, ils disent que ça suffit.
Est-ce que c'est vraiment nouveau, ça, professeur, ce choc générationnel ? Parce qu'il y avait tout un discours avant, quand même, contre les boomers. Avant la crise sanitaire, d'ailleurs, on reprochait à ces boomers d'avoir profité de la société, une société de consommation, d'avoir bénéficié du plein emploi, d'avoir aussi, d'une certaine manière, saccagé la planète avec toutes les problématiques environnementales qu'on connaît aujourd'hui, d'avoir été un peu égoïste, finalement.
Oui. Alors, oui, c'est pas nouveau. Sauf que pour moi, c'est un catalyseur, ce qui se passe là. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mmh. Et vous voyez, et en plus, il y a quand même un truc qui est l'éléphant dans la pièce, hein, c'est le climat. C'est que pour beaucoup de... Les jeunes ne sont pas révolutionnaires, hein, ils ne sont pas haineux, pas du tout, ils sont cool, ils sont sympas. Mais pour eux, on leur laisse une planète qui est en débandade.
Oui.
Et quelque part, clairement, pour eux, d'ailleurs, en partie à tort, hein, pour eux, c'est à cause de nous si on leur laisse la planète dans cet état.
Qu'est-ce que ça pourrait donner à plus long terme, une scission telle que vous la craignez entre les générations ? C'est quoi l'enjeu et c'est quoi l'impact que ça pourrait avoir? Pourquoi c'est si grave en somme, professeur?
D'abord, c'est grave parce qu'on ne le dit pas. Donc là, c'est bien, on le dit.
Oui.
Alors, on est dans une démocratie, il faut en débattre.
Mais de quelle manière on en débat?
Il faut que des jeunes s'expriment, qu'on leur donne la parole, et il faut que des personnes âgées réfléchissent à ce qu'elles font aussi. Et puis, après, faut arranger les choses. Faut dire, est-ce que les stages, les CDD, la pression scolaire qu'on leur met, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que, du coup, l'âge de la retraite, faudrait pas le décaler? Vous voyez, plus on est vieux, plus on gagne de l'argent quand on est fonctionnaire. Est-ce que c'est forcément logique?
Oui. Mais là, ça dépasse votre domaine de compétence. C'est-à-dire que c'est tout l'équilibre social du fonctionnement de la société qu'il faudrait revoir, si je vous entends. C'est presque un message politique que vous nous délivrez ce soir, professeur.
Oui, vous avez raison, ça dépasse de mes compétences. Mais d'un autre côté, moi, je suis avec des jeunes et quelque part, je ne les entends pas. Donc, vous me donnez la parole. Quelque part, je parle un peu pour eux.
Bien. Et dites-moi, concrètement, la manière dont s'exprime ce malaise chez les jeunes que vous consultez.
C'est du ressentiment. Voilà. C'est pas de la haine.
Mais quel mot? Comment ça se manifeste?
Ils font chier.
Ils le disent comme ça?
Bien sûr.
Ils nous font chier, les vieux?
Ils nous font chier. On est dans des files d'attente, ils nous regardent de travers parce qu'on a mal mis le masque, etc. Alors que nous, on met le masque pour les protéger, eux. Donc, on est là pour eux, on est cloîtrés chez nous pour eux, et eux, ils nous regardent de travers, ils font chier.
Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les plus anciens qui nous écoutent? Parce qu'il y a aussi cette petite musique aujourd'hui dans la société qui est de dire ils sont pas si mal lotis, nos jeunes. Nous, les plus anciens, on a connu la guerre d'Algérie, on a connu le début du chômage de masse, on a connu le début du sida avec la génération 80, on a connu la guerre.
Bien sûr, c'est vrai.
Donc ils se plaignent beaucoup, ces jeunes, aujourd'hui.
C'est vrai, j'ai fait mon service militaire, c'était pas cool, c'était pire que le confinement. On est d'accord. On est d'accord, sauf que la société n'est plus la même. Prenons du recul, réfléchissons, débattons ensemble.
Oui, mais professeur, quel est l'appel que vous souhaitez lancer pour que ces générations parviennent à renouer le dialogue? Parce que les incantations, c'est bien joli, mais à un moment, il faut que tout ce petit monde arrive à se parler, à se comprendre et à se réconcilier.
Oui, comme vous l'avez dit, c'est un problème politique. Et honnêtement, les vieux votent plus que les jeunes. Et donc les politiques, ils ont tendance à protéger les personnes plus âgées. Donc c'est à nous tous, collectivement, de dire... regardons ce qui se passe autour de nous. Quand on est jeune, on aime bien se retrouver, on aime draguer. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est un problème. Voilà, c'est un problème. Reconnaissons-le, disons-le.
Il y a beaucoup de chiffres qui circulent, professeur Bruno Falissard, sur le mal-être des jeunes, indépendamment de ce choc générationnel que vous évoquez. C'est quelque chose que vous rencontrez au quotidien. J'ai vu des chiffres absolument alarmistes sur des enfants de 9 ans, de 10 ans, qui ont des tendances suicidaires, qui s'interrogent beaucoup sur l'avenir, qui sont en dépression chronique. Oui. C'est quelque chose de réel, ça, que vous arrivez à quantifier?
Alors, oui et non. D'un côté, globalement, les jeunes vont mieux. Voilà. Le taux de suicide chez les jeunes de 17 ans a diminué de 40% dans les 15 dernières années. Donc, on ne peut pas dire que les jeunes vont plus mal. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate. Les jeunes d'aujourd'hui sont bien.
Avec ce qui vient de s'écouler,
On n'a pas de données. On a des données fragiles sur les 8 derniers mois, parce que pour faire de la science, il faut du temps. Néanmoins, il faut savoir qu'entre mars et septembre, le taux d'hospitalisation pour suicide en France a diminué par rapport à l'année précédente.
Oui.
Ça, c'est des nombres. Après, vous avez raison. Il y a un sentiment de mal-être qui ne relève pas de la psychiatrie, mais il y a un sentiment de mal-être chez les jeunes en général.
Quelle incidence ça peut avoir sur la construction individuelle d'un jeune, un sentiment de mal-être comme celui que vous évoquez? Parce qu'il y a plein de choses qui se bousculent dans la tête de ces jeunes. Il y a
Absolument.
Le caractère anxiogène du moment, il y a la peur de l'avenir,
Absolument.
Il y a l'angoisse qui est renvoyée aussi par les parents, par les gens qui entourent l'enfant. Comment ça peut se manifester sur le long terme, ça? Et est-ce que c'est récupérable, tiens, d'ailleurs?
Oui, bien sûr que c'est récupérable. Bien sûr que c'est récupérable. Ça peut se manifester par un dépit. Voilà, on laisse tomber. On se désinvestit de la société, de l'avenir, et on se concentre sur la planète et l'écologie.
Désengagement. C'est ça qui va sauver la jeunesse, c'est ce que vous dites.
Non, ça ne va pas la sauver. Encore une fois, parlons-en. Voilà. Prenons du recul, mettons-nous à leur place. Nous avons été jeunes. On oublie qu'on a été jeunes et qu'on a été comme eux. Et quelque part, on a un peu pensé la même chose.
Bien, merci professeur Bruno Falissard pour ces quelques mots passés ensemble. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bouchy.
Quasiment 18h30, le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Et les organisateurs de festival avaient rendez-vous cet après-midi avec la ministre de la Culture pour évoquer la reprise. Ils en sont ressortis globalement satisfaits, car oui, on pourra assister à des festivals cet été, à condition de respecter des règles strictes. 5000 spectateurs en plein air maximum et obligation de rester assis et distancié. La ministre promet d'aider ceux qui seront quand même contraints d'annuler. Le point du jeudi sur la situation sanitaire. Pas de nouvelles restrictions, mais un nouvel appel à la prudence. L'incertitude autour des variants doit nous inviter à la vigilance absolue. Olivier Véran annonce que pour les personnes testées positives, la durée de l'isolement passera à partir de lundi de 7 à 10 jours. Emmanuel Macron veut renforcer la cybersécurité après les attaques qui ont récemment visé les hôpitaux de Dax et de Villefranche-sur-Saône. Le président promet une riposte et confirme le déblocage d'un milliard d'euros pour mieux lutter contre le piratage des systèmes sensibles. 2020, année noire pour Air France, KLM, 7,1 milliards de pertes, c'est un chiffre sans précédent. 75% des encres utilisées pour les tatouages en France sont toxiques. C'est ce qu'affirme l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Elle dénonce la présence de produits cancérigènes, neurotoxiques ou hautement allergisants. Après un long voyage de 7 mois, le robot Persévérance de la NASA se posera sur Mars aux alentours de 22h ce soir. Une épopée qu'Europe 1 vous fera vivre en direct. Et puis en foot, 16e de finale aller de la Ligue Europa. Lille accueille l'Ajax Amsterdam. C'est à partir de 21h.
Merci ma chère Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal à 19h. Un petit coup d'œil au temps avec Anissa. Les éclaircies sont de retour.
Oui, dans l'après-midi, en effet, demain, le temps sera beaucoup plus lumineux qu'aujourd'hui. Attention tout de même demain matin sur presque toutes les régions, sauf la façade est, de l'Alsace à la Côte d'Azur. Là, le temps reste clair avec un ciel dégagé. Mais partout ailleurs, nous aurons de nombreux nuages bas en région parisienne. Sur le Val-de-Saône et le centre-Val de Loire, ces brouillards seront même tenaces. Et puis au bord de la Méditerranée, sur les Cévennes en particulier, nous aurons quand même de belles averses. Les températures, 0 à 11 degrés demain matin. Attention, quelques petites gelées matinales sont possibles au nord de la Loire. Et puis dans l'après-midi, ça grimpe encore demain avec 10 à 22 degrés. Nous aurons 10 degrés à Lille, 13 pour Paris et 22 la maximale à Tarbes.
Merci Anissa, vous revenez nous voir à 19h pour un nouveau point sur le temps.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le débat des grandes voix du jeudi à présent avec ce soir à mes côtés, Michel Cotta. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Emmanuel Ducrot, journaliste éditorialiste à L'Opinion. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien.
Et Eric Scholl. Bonsoir Eric.
Bonsoir,
directeur
bonsoir
de la
tous.
Rédaction de L'Express. Alors, c'est la vive polémique de la semaine. La décision de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, de lancer une étude sur l'islamo-gauchisme dans les universités qui, selon elle, gangrène la société et peut-être aussi, dit-elle, l'université. Stupeur dans l'opposition, levée de bouclier des présidents de fac et au sein d'ailleurs de la majorité, on va en parler, où l'on préférerait qu'elle s'occupe d'abord de la précarité étudiante. Alors on va reprendre les choses dans l'ordre. D'abord, Frédéric Vidal qui a dit ceci.
Moi je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société.
Gabriel Attal, lui, suite à cette sortie et la polémique qui s'en est suivie, le porte-parole du gouvernement a tenté d'éteindre la polémique en rappelant ceci.
Le président de la République est profondément attaché à l'indépendance des enseignants-chercheurs, qui est un des fondements de notre République que nous devons garantir. La priorité pour le gouvernement, c'est évidemment la situation des étudiants dans la crise sanitaire.
Alors, on va évidemment parler du fond. Y a-t-il de l'islamo-gauchisme ? Y a-t-il péril en la demeure au sein des universités ? D'abord, peut-être sur la forme et sur la séquence politique, Éric Scholl. Comment faut-il interpréter cette sortie de Frédéric Vidal qui, visiblement, en tout cas en apparence, agace aussi au sommet de l'État ?
Elle agace partout et je pense que c'était la mauvaise sortie au mauvais moment et sans doute aussi par la mauvaise personne. C'est-à-dire qu'il y a certainement un sujet, enfin il y a un sujet derrière, un sujet qu'on pourrait peut-être résumer par la liberté d'expression dans le monde universitaire, et elle s'y est prise alors que ce n'est absolument pas le moment. En ce moment, il y a une priorité pour les étudiants, c'est la crise étudiante qu'on traverse. Et donc, du coup, ça fait un énorme flop monumental, et surtout, ça a été vécu comme une agression, parce que parler d'islamo-gauchiste alors que le sujet n'est pas exactement là dans le monde universitaire, c'est beaucoup plus un sujet qui concerne ce qu'on pourrait appeler toutes les petites théories des genres, etc. C'est pas l'islamo-gauchisme qui n'a pas en soi de substance, si vous voulez, intellectuelle. Donc, elle s'y est très, très mal prise.
Bien. Michel Cotta, pareil, sur la dimension politique et sur le timing, c'est vrai qu'au sein de la majorité, on s'étrangle un peu et beaucoup lui disent la priorité, c'est d'abord la situation des étudiants précaires qui subissent la crise sanitaire. On verra le reste ensuite.
Non, mais ça, on est tout à fait d'accord sur le timing. Surtout le lendemain où la loi est votée, la loi sur le séparatisme est votée, je trouve que c'est... vraiment, ce n'est pas le moment, quoi. Bon. Mais moi, je ne sais pas ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Et j'aimerais bien l'entendre.
Alors, on va en parler.
Parce que s'il s'agit de dire que les guerres coloniales ont été un échec pour la France, que la France n'a pas su gérer son passé colonial, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon. Mais s'il s'agit de dire qu'on soutient l'islamisme dans ses formes excessives, alors là, non.
Oui. Non, c'est parfois une forme de censure qui peut être appliquée par un certain nombre de syndicats étudiants et d'étudiants contre une forme de pensée, alors que l'université doit être le lieu, normalement, de la liberté du débat, quel qu'il soit d'ailleurs, quels qu'en soient les avis. Emmanuel Ducrot, pareil, votre ressenti d'abord sur la séquence politique et sur la forme, parce que ça a quand même son importance. C'est vrai que Frédéric Vidal était plutôt critiqué pour sa non-gestion du péril jeune, on va dire du péril étudiant. Et la sortie qu'elle fait porte évidemment sur cette polémique autour de l'islamo-gauchisme. Comment vous jugez cette séquence, vous ?
Elle passe complètement à côté de son sujet, ce qu'on appelle un hors-sujet. Enfin, je veux dire, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des problèmes. Mais effectivement, le moment est mal choisi. Elle est lâchée en rase campagne à un moment où elle aurait quand même plutôt besoin de soutien, parce qu'effectivement, l'université française est à feu et à sang. Et les étudiants ne savent plus où ils habitent, ils ne savent plus comment se nourrir d'ailleurs, ce qui est quand même aussi un autre problème.
Oui.
Et en plus, elle fait une espèce de sac à provision idéologique avec ce vocabulaire d'islamo-gauchisme. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, l'islamo-gauchisme. Ça veut dire que ce n'est probablement pas la façon dont il faut décrire certaines dérives
de l'université
française.
Mais alors, comment vous interprétez cette sortie ? Pourquoi cette sortie ? Pourquoi à ce moment, elle fait de la politique politicienne ?
Mais
ou
je
elle
vois
essaie
même pas
d'exister
pourquoi
ou...
Je ne sais pas pourquoi elle s'est emparée de ça.
Elle a rebondi. Le sujet n'est pas nouveau. Jean-Michel Blanquer s'en était déjà emparé au mois d'octobre. Et il y a un sujet qu'on pourrait explorer. Mais simplement, les termes qu'elle utilise, tout à coup, décréter une enquête, évidemment, en disant c'est un chiffon rouge qui est agité, en disant on va faire une enquête. Tout d'un coup, elle met en cause ce qu'on appelle la liberté académique. Et donc, en réalité, et on a vu évidemment tout immédiatement le monde des chercheurs, le CNRS, les présidents d'université tout de suite grimper, érupter contre cette enquête.
Oui.
Et elle ce qu'elle voulait faire, c'était précisément chercher si la liberté d'expression était mise en cause ou pas dans les universités, mais on a l'impression que c'est la liberté académique qui est mise en cause. Vous voyez, c'est deux principes qui s'affrontent.
Et c'est vrai qu'elle s'est mis un peu tout le monde à dos. Le CNRS, j'ai leur réaction sous les yeux, a précisé dans un communiqué qui a donc été mandaté pour faire des études sur la réalité de l'islamo-gauchisme au sein des universités, précise, l'islamo-gauchisme, je les cite, c'est un slogan politique utilisé dans le débat public et ça ne correspond à aucune réalité scientifique. Michel Cotta.
Aucune réalité scientifique, ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a ça correspond à une évolution des syndicats étudiants. Ça, je crois qu'on ne peut pas le nier. Quand l'UNEF, quand on apprend dans l'UNEF qu'il y a des réunions réservées aux hommes et des réunions réservées aux femmes, franchement, on s'arrache les cheveux.
Oui.
Bon, donc que ça,
surtout
ça existe.
Quand on connaît l'histoire de l'UNEF.
Que ça existe. Mais l'accusation est portée sur, au fond, les thèses des uns et des autres, sur les thèses qui sont fabriquées par les étudiants, par ce que font les chercheurs. Là, franchement, ce n'est pas à elle, ce n'est pas au ministre de dire ce qu'il faut chercher et quand il faut chercher.
Bien. Voilà pour la forme et pour la politique. Sur le fond, peut-être, Emmanuel Ducrot, on peut en parler. Quand Jean-Michel Blanquer, parce que c'est vrai qu'il avait été le premier à le dire aussi, ministre de l'Éducation nationale, il avait dénoncé en octobre 2020, ça n'est pas si lointain, les ravages à l'université de l'islamo-gauchiste. Qu'est-ce qu'on entend par là concrètement ?
Je pense qu'on entend plus le climat général que la tenue des études en elles-mêmes. Mais c'est encore une fois une espèce de grand brouet idéologique. Par islamo-gauchisme, je pense que le terme est mal choisi.
C'est quoi ? C'est un problème sémantique, vous diriez ça ?
Oui, je pense que c'est un problème. Enfin, comment dire ? Islamo-gauchisme, ça ne manque pas de sel d'ailleurs, d'interroger le CNRS sur cette notion-là. Un des façonneur, si on peut dire, de cette thèse de l'islamo-gauchiste, étant un des chercheurs du CNRS, oui. Pierre-André Taguieff, qui d'ailleurs le revendique. Donc ça ne manque pas de sel que le CNRS explique aujourd'hui que ça n'existe pas, puisqu'il a quand même hébergé en son sein quelqu'un qui défend cette thèse, enfin, l'existence de ces thèses-là, en tout cas. Je pense que la dérive à laquelle entend si maladroitement s'attaquer Frédéric Vidal, c'est plus celle des thèses décoloniales, de théories du genre mal maîtrisées qui partent dans tous les sens, oui. Une espèce de décalque de l'esprit de certaines universités américaines qui sont parties dans des délires qui vrillent totalement, oui. Mais vraiment. Oui. Et qu'on essaye d'acclimater ici avec plus ou moins de bonheur.
La culture victimaire, pour le dire simplement.
Oui, c'est ça. Et puis ça donne ces réunions en non-mixité, ça donne une espèce de culture militante de l'écriture inclusive dont on ne voit pas très bien où ça va. Enfin, et ça donne toutes ces thèses-là, une sorte de racialisme latent, mais qui est plus, effectivement, je pense, le fait de syndicats étudiants, peut-être de syndicats d'enseignants, que le cœur de l'université française.
Éric Scholl.
Repris quand même aussi, ça vient, il y a un militantisme étudiant, repris aussi par des universitaires. Mmh. Et ce qu'on observe, ce mouvement qu'on voit très bien infiltré en ce moment à l'université française, on l'a vu aux États-Unis, on le voit aussi en Grande-Bretagne, et pas plus tard que mardi, là, il y a 3 jours, le gouvernement britannique a pris des mesures pour justement essayer d'encourager la liberté d'expression dans les universités. Vous voyez que elle tombe, c'est son calendrier de Madame Vidal est clairement mauvais parce qu'on a un autre calendrier social beaucoup plus important. Mais si vous voulez, on voit bien que la problématique, elle existe aussi ailleurs. Oui. C'est ce qu'on appelle la cancel culture. Oui. C'est-à-dire cette pression, cette quasiment censure sur les idées.
Mais c'est pas tout à fait la même chose que l'islamo-gauchisme.
C'est une nébuleuse. D'ailleurs, si vous voyez dans ce qu'elle a appelé l'enquête ensuite, dans la part prise des thèmes de l'islamo-gauchisme, c'est plus large que ça. Et c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui une sorte de grande nébuleuse dans laquelle il y a beaucoup de sujets différents.
Finalement, c'est
la
volonté, ça a fait polémique, on en a parlé à ce micro aussi quand c'est arrivé, c'est la volonté de certains étudiants, parfois dans certaines facs, de vouloir empêcher la venue de tel ou tel penseur, oui, de tel ou tel écrivain, ce qui est au demeurant relativement grave.
Mais
ça n'est pas l'islamo-gauchisme, c'est ce que vous dites, Michel Cotin.
C'est malheureusement réel. Oui, on a vu des étudiants dire « non, telle pièce ne nous plaît pas, il ne faut pas la jouer à la Sorbonne ». Ça me paraît absolument dangereux, mais je ne crois pas que ça se soigne comme le fait ou comme voudrait le faire Madame Vidal. En tout cas, ça se soigne pas par le ministre, ça. Mais vous savez, je vais faire l'ancienne là.
Ancienne combattante.
Nous avons tous connu dans les années après 68, il y avait une mode comme ça.
Oui.
C'est que les thèses déposées étaient toutes sur le marxisme. En économie politique, vous aviez 10 thèses, je sais parce que c'est mon frère qui s'en occupait, il y avait 10 thèses sur le marxisme. Alors, il y a des modes, et je crains que, de temps en temps, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, ce soit une mode. Mais que ce soit une réalité, c'est sûr aussi. Encore une fois, je ne pense pas que le problème se traite comme ça.
Est-ce qu'il y a un risque, Emmanuel Ducrot, que ça fracture encore un peu plus la société et qui plus est l'université ?
Probablement.
Et que ça ait l'effet inverse que celui recherché ?
Alors ça, je ne sais pas, mais ce qui est en jeu peut-être plus que la lutte contre l'islamo-gauchisme, c'est la pluralité des points de vue au sein de l'université. En fait, pour faire une analogie que tout le monde va comprendre dans les circonstances actuelles, c'est un peu comme les variants. Voilà, c'est comme s'il y avait une sorte de variant intellectuel qui est en train de prendre la place d'autres formes intellectuelles. Et finalement, de tuer les autres modes d'expression, comme les virus plus faibles sont tués dans l'espace par ces variants intellectuels qui sont quand même parfois... qui justifient un peu tout et n'importe quoi par une sociologie mal maîtrisée.
Oui.
La fracture, elle existe déjà au sein de l'université.
Oui.
Et je pense que quand, par exemple, Sylvia Lagacinski ne peut pas aller faire une conférence dans une université parce qu'on l'en empêche, quand Alain Finkielkraut ne peut pas aller faire une conférence, je crois, c'était à la Sorbonne parce qu'on l'en empêche, quand une pièce d'Eschyle ne peut pas être jouée dans une université parce qu'on accuse les acteurs de se grimer.
Ça, c'est problématique.
Évidemment que c'est problématique. Évidemment
c'est
même problématique.
Pas problématique. Je trouve que c'est incroyable que ça ne se fasse pas.
Surtout que la plupart du temps...
On devrait se battre pour que ces pièces de théâtre... Eschyle, on se bat sur Eschyle maintenant. Bon, mais on devrait se battre pour que ça ne se passe pas.
Et surtout que la plupart du temps, ça repose quand même sur des lacunes culturelles énormes. Enfin, on a toujours joué Eschyle avec du maquillage.
Je finis juste une phrase. Or, le gouvernement, le ministre, ne fait rien dans ces cas-là pour rétablir, pour dire oui, on joue ça, même s'il y a une émeute, on joue ça. En revanche,
Elle condamne de l'extérieur l'islamo-gauchisme.
Comment ça peut se terminer, cette affaire, Eric?
Elle a raté son coup, et elle a même ouvert, mais alors je dirais, les vannes à ses opposants, puisque là, maintenant, on peut évidemment, c'est ce qu'ils font, ils évoquent la liberté académique, etc. Et du coup, le sujet, il va disparaître, alors qu'il y a un vrai sujet derrière. Mais simplement, aujourd'hui, la priorité, elle est totalement différente. La priorité, aujourd'hui, c'est la vie au quotidien des étudiants. Et là-dessus, il est vrai aussi qu'elle s'est réveillée très tard dans l'année. Je veux dire, elle aurait dû s'emparer de ce sujet beaucoup plus tôt.
Elle pourra rester en responsabilité, vous pensez ?
Pardon ?
Elle pourra rester en responsabilité, rester ministre ?
Alors, quand on regarde les communiqués à la fois du CNRS et de la conférence des présidents d'université, on se dit que ça va être très difficile, parce que pour elle, ils font déjà comme si elle avait déjà, c'était déjà sorti de son poste.
Bien. On reste ensemble, on marque une première pause, 18h44, on se retrouve dans un instant, on parlera de la conférence d'Olivier Véran, elle est toujours en cours en ce moment, avec les derniers chiffres du Covid. Faut-il alléger les restrictions ? La question se pose, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bucci.
18h45, la suite du débat des grandes voix du jeudi, avec toujours à mes côtés Michel Cotta, Emmanuel Ducrot, du journal L'Opinion, Eric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express. Alors on parle du Covid, faut-il alléger les restrictions ? La question se pose, pour l'instant Olivier Véran a plutôt dit non. Il faut rester vigilant face à la circulation du virus. Mais c'est vrai que les chiffres reculent. Le Covid continue sa lente décrue aux alentours de 18 000 cas quotidiens, en baisse de 10% sur une semaine. Et le fameux taux de reproduction, l'indicateur R qu'on regarde de près depuis maintenant plusieurs mois, descend encore à 0,90. Où en est-on, Emmanuel Ducrot ? Faut-il alléger les restrictions ? On sent qu'il y a quand même une forme de pression qui est en train de s'exercer sur le gouvernement, notamment de la part du monde de la culture.
Évidemment qu'il y a une pression. Évidemment que je comprends que le gouvernement ne soit pas pressé d'agir. Le virus nous a habitués depuis son surgissement dans nos vies à nous prendre un revers systématiquement. Donc je conçois qu'on attende que les tendances soient un petit peu plus fermes avant de réagir.
Oui.
Alors pour le monde de la culture, on voit qu'effectivement, les choses progressent, que Roselyne Bachelot commence à dire que oui, on va étudier des solutions pour refaire des concerts, etc.
Et une première annonce qui est tombée il y a quelques instants concernant les festivals d'été. Mmh. Ils pourront se tenir cet été, c'est une nouvelle importante, en configuration assise, avec une limite, nous dit-on, de 5000 spectateurs, mais assis.
Mais oui, souvent on est dehors.
Je ne sais pas comment on va organiser ça, parce qu'un festival d'été, vous voyez, les vieilles charrues ou Solidays en version assis à 5000, ça risque d'être compliqué. Mais bon, c'est un premier signal de
ça va changer
d'ambiance. Desserrage de vis.
Mais bon, je pense que le monde de la culture qui ronge son frein et puis qui souffre va être content de pouvoir recommencer à travailler, même en conditions dégradées. Va se poser la question des restaurants. Ça, je pense qu'on n'y est vraiment pas encore. On sait que c'est quand même le lieu de contamination par excellence.
Oui.
Et ça, pour le coup, je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Alors après, il y a la question du couvre-feu. Est-ce que c'est un couvercle qu'on lève ou est-ce qu'on attend encore un peu ? Voilà. Dans la mesure où les restaurants et les bars sont fermés, peut-être que ce n'est pas une urgence.
Michel Cotta.
Olivier Véran, tout à l'heure, quand j'entrais dans ce studio, disait qu'il ne fallait sûrement pas, vraiment pas déconfiner.
Ne pas lever les contraintes trop tôt, c'est ce qu'il a dit.
Ne pas lever les contraintes parce que, sur l'ignorance du vaccin, du variant anglais. C'est-à-dire qu'on voit très bien, alors on montre les courbes, on voit très bien que le variant Covid tel qu'on connaît décroît, mais le problème est de savoir ce que va faire le variant anglais.
Vous entendez la petite musique depuis plusieurs jours. Il y a des éminents épidémiologistes, des grands professeurs, le professeur Anné par exemple, qui disait ce matin, c'est vrai qu'on a peut-être surestimé la dangerosité et la contagiosité du variant anglais. On s'est peut-être trompé, ils disent en somme les scientifiques.
Oui,
alors il faut rester évidemment prudent, mais ça serait une bonne nouvelle. Ça serait une bonne nouvelle au demeurant, Eric Scholl. Faut-il revoir les restrictions ? Est-ce que c'est le bon moment ?
Pour le moment, absolument pas. Pour la bonne raison que tous les scientifiques ne savent pas. Ils sont eux-mêmes très surpris. Et donc, à partir du moment où on ne comprend pas qu'on est une situation qui, certes, est en amélioration, mais on est quand même sur des plateaux élevés.
Oui.
Et quand vous regardez quand même ce qui se passe dans les hôpitaux, on est quand même à un niveau très élevé. Le stress dans les salles de réanimation, on est quand même encore à
60%. C'est fou quand même d'avoir baissé 10% le niveau de contamination
morts,
en quelques jours.
Les morts, restent très importants.
Mais rendez-vous compte, on était à 24 000 contaminations jour au début de la semaine. On est à moins de 18 000 aujourd'hui. C'est assez mystérieux quand même ce qui se passe autour de ce virus.
Et qu'on comprenne, et qui est très dur à accepter pour nous tous, c'est qu'on ne sait pas. Et qu'en fait, on apprend sans arrêt des choses nouvelles. On doit remettre à jour nos logiciels quasiment quotidiennement. C'est extrêmement déstabilisant pour tout le monde. Et on sait aussi que les estimations qui ont été faites en Grande-Bretagne sur des modèles mathématiques ont été faites sur une période où les pubs n'étaient pas fermés. Donc ça a probablement faussé la lecture mathématique. On n'était pas sur des situations comparables. Donc on s'est peut-être un peu inquiété tôt. Ça ne veut pas dire qu'on est... comment dire, ça ne préjuge pas de la suite.
Ouais. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une mobilisation importante. J'entendais le maire de Blois tout à l'heure sur une chaîne info qui milite pour ouvrir ses lieux culturels, le château de Blois, par exemple. Et on sent qu'il y a quand même une mobilisation et un lobbying important du monde de la
évidemment,
culture.
Évidemment, et ça va être de plus en plus chaque semaine.
D'ailleurs, les Français sont en train de se retourner. Je regardais le dernier sondage ELAB paru hier. 7 Français sur 10 sont aujourd'hui favorables à la réouverture des musées. 74% au total.
Oui. Alors peut-être que ce n'est pas une mauvaise idée. Il va falloir quand même qu'on se pose des questions techniques. Par exemple, on sait que les ventilations, c'est quelque chose d'absolument crucial dans la circulation des virus. Et on l'a très bien étudié sur les trains de la SNCF, par exemple. On sait très très bien comment ça marche et on sait très bien ce qu'il faut faire pour que les ventilations soient efficaces. Alors peut-être que ça va en passer par là. Les musées, c'est quand même généralement des grands espaces. C'est ventilé, on peut probablement faire des jauges pour que ça marche, mais... ça ne semble pas être des endroits de contamination et peut-être que ça ferait du bien à tout le monde d'avoir ces échappatoires-là dans nos vies contraintes.
Oui, de loisirs, de culture. Oui, mais... Et c'est vrai qu'il y a le même argument qui revient tout le temps quand vous regardez les photos et quand vous prenez le métro ou les transports en commun qui sont bondés, les musées avec les grands espaces et les circuits pour les visiteurs qu'ils ont mis en place avec toutes les précautions qui vont avec, c'est vrai qu'on se dit, a priori, ça pourrait rouvrir.
Vous parlez des maires qui disent il faut davantage... mais il faut davantage ouvrir. Mais il y a aussi beaucoup de maires qui disent, et on les entend, le maire de Metz, qui disent il faut confiner.
Oui.
Confiner tout de suite.
Pour être tout à fait franc, il y a deux zones.
Ah ben, non.
Il y a la Moselle et puis
oui,
il y a.
Oui, mais alors, vous voyez très bien que.
Il y a Dunkerque.
Distinguer les zones. Moi, je veux bien qu'on distingue entre les Alpes-Maritimes qui sont au maximum et le Var qui est à côté. Mais je peux vous dire que c'est difficile de pas passer de l'un à l'autre.
Oui,
donc,
oui.
Je crois que la situation actuelle est peut-être difficile. C'est vrai que le couvre-feu à 6 heures, ça n'amuse personne. Mais c'est peut-être le moins possible. Et en attendant, on peut aller lentement. On peut se donner le temps,
c'est vrai
en
que
tout cas.
Ça pourrait être d'ailleurs un retour à la discussion région par région, territoire par territoire, avec des territoires qui sont plus ou moins
des maires qui ne sont jamais d'accord.
Rouvrir ici un musée quand la contamination est faible, ici le laisser fermer quand la contamination est importante, mais on sent quand même que les blocs sont en train de bouger, Eric Scholl.
À condition qu'on commence à comprendre davantage les modèles, les fameux modèles. Modèles, pour la on ne comprend pas les modèles, ils annoncent autre chose que ce qui est en train de se passer. Donc, il faut qu'on ait la certitude que soit les modèles sont faux, qu'il y a une autre réalité. Pour le moment, réellement, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Ce qui veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'une remontée très soudaine de l'épidémie. Si c'est le cas, on a quand même intérêt à être à le niveau actuel. Mais si on rouvrait tout aujourd'hui, on aggraverait largement la situation si on avait cette remontée d'épidémie.
C'est vrai qu'il y a des mystères. J'évoquais ici dans le studio hier une grande étude que j'ai regardée sur l'Inde, par exemple. L'Inde, où en quelques jours, on est passé de 100 000 contaminations, alors qu'il n'y a aucune restriction là-bas et très peu de vaccins, à moins de 10 000. Et personne ne comprend pourquoi. Personne. C'est un mystère quand même.
Mais oui, parce que je pense que toutes les sciences n'ont pas encore épuisé le sujet de ce virus. On sait par exemple que la météo a probablement des effets sur ce virus qu'on ne maîtrise pas très bien.
Oui. Alors on a un peu entendu tout et son contraire. On a dit que le froid stimulait le virus et puis on a dit l'inverse.
Eh bien voilà, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi le virus flambe à Manaus au Brésil alors qu'il est censé être inactivé par la chaleur. Enfin, il y a quand même vraiment, vraiment beaucoup de mystères encore de tout ça. Et ça doit vraiment nous inciter à la plus grande prudence. Et il faut quand même rappeler que la donne va aussi changer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois avec la vaccination. Et il faut quand même qu'on se rappelle qu'on a ça.
Et avec
la
météo. Vous avez vu, il commence à faire très beau. Ça veut dire que les gens vont se retrouver dehors et moins à l'intérieur, ce qui peut être un facteur de moindre contamination. Michel Cotard.
Il y a tellement de... vous voyez, il y a tellement de notes sur cette gamme. Parce que pendant qu'on est en train de parler, effectivement, de...
c'est une belle analogie.
Levée partielle de... Il y a en même temps, vous avez tous entendu parler de ce collectif de médecins qui se prononce pour le Covid-0. Et le Covid-0, il faudrait mettre la terre sous cloche pour que ça marche pendant 3 semaines. Et encore, on n'aurait pas de certitude. Donc au fond, on a toutes les notes de la gamme. Ceux qui veulent tout libérer et ceux qui, au contraire, veulent tout mettre sous une chape de plomb.
Oui.
C'est vrai que pour
un pouvoir politique, c'est quand même une épreuve particulière.
En tout cas, il y en a deux qui se frottent les mains. C'est les deux têtes de l'exécutif, Emmanuel Macron et Jean Castex, qui remontent assez nettement dans les opinions de sondage. Hein. 50% d'opinion favorable pour le président de la République, 48% pour son Premier ministre, selon le dernier baromètre IFOP, publié par nos collègues de Paris Match. C'est une sacrée tendance à la hausse. Ce choix de non-confinement, ça profite quand même... à l'exécutif, Éric Scholl.
Effectivement, c'est le choix du président de la République, c'était le 29 janvier, je crois, de choisir finalement de refuser le confinement et donc de choisir cet entre-deux où on est avec ce couvre-feu à 18h, où on a quand même un certain degré de liberté, mais qui n'est pas total, puisqu'on est là en train de discuter comment on pourrait avoir levé davantage de restrictions. Et on voit que ça lui profite, parce qu'à ce moment-là, il avait pris cette décision, et on en avait discuté sur ce plateau, contre l'avis des scientifiques. Donc c'était une décision politique. On se pensait, moi le premier, je me disais, la semaine prochaine, on sera en confinement. On s'aperçoit que pour le moment, ça tient. Ouais. Et tant que ça tient, on peut mettre ça évidemment à son crédit.
Mais là, aujourd'hui, on assiste quand même à un point de bascule. Hein, parce qu'avec la réouverture des festivals, c'est loin, c'est l'été. Mais c'est une première. C'est la première fois qu'on a un cap, qu'on a un horizon.
Alors, encore une fois, les horizons dans la crise Covid se sont souvent déplacés. Oui. Mais alors, ce qu'on peut dire là maintenant, c'est que entre.
En tout cas, c'est une espérance.
C'est une espérance. Là, on est dans un compromis entre la restriction, clairement, de nos possibilités de circulation. Mais en même temps, les Français ne sont pas interdits de partir en vacances, de partir même hors des frontières. Il n'y a pas de consigne. On est aussi dans un moment où on essaye de quand même de sauvegarder l'économie autant qu'on peut. Et peut-être que pour une fois, en même temps, ce fameux « en même temps » réussit à Emmanuel Macron, ce qui est quand même un peu nouveau, parce que jusqu'à maintenant, ça faisait un peu mi-chèvre, mi-chou, et là, ça semble marcher.
Alors bien sûr, ce chiffre formidable, on l'a, mais il y a des fois où on ne le garde pas. Hein. Parfois, on a 50%, parce que oui, on a fait le geste qu'il fallait au moment où il fallait, mais imaginez qu'il y a un pic de remontée.
Non, mais c'est un pari,
COVID,
c'est ce qu'on
ce
dit depuis le début.
Le
président de la République a pris un pari. S'il sort victorieux de ce pari...
Il a pris une décision, mettons. Peut-être que d'ailleurs, ça correspond à quelque chose dans l'esprit des Français. Il y a eu quelqu'un qui a dit non à la communauté scientifique à un moment donné.
Ce qu'il se dit dans l'entourage du président de la République, il se dit qu'il a retrouvé ce qui a fait son succès des débuts, c'est-à-dire l'instinct. Il a décidé à l'instinct.
Et il a décidé aussi seul.
J'espère que son instinct ne se trompe pas.
Mais pour le moment, ça a permis à la France, aux Français, de gagner du temps sur le confinement. Et ce temps-là, c'est un vrai gain, puisque ça a permis à l'économie de continuer à fonctionner sans que, pour le moment, l'épidémie reste à peu près sous contrôle. Néanmoins, les menaces, elles sont évidemment toujours là.
Alors, il y a un élément assez pessimiste, on terminera là-dessus, c'est que dans ces sondages, il y a un Français sur cinq qui pense qu'il ne retrouvera jamais une vie normale.
Moi, je pense qu'on retrouvera des vies normales, mais que ça va prendre du temps.
Oui.
Et qu'il va falloir aussi, là, dès maintenant qu'on commence tous à apprendre à vivre avec. C'est-à-dire pas par intermittence comme on le fait maintenant, mais réellement avec. Et ça veut dire que, par exemple, pour la réouverture des festivals, des salles de concert et de cinéma, il va falloir mettre en place des nouveaux protocoles. Et ça veut dire qu'il faut commencer tout de suite à penser comment on va faire ça techniquement et scientifiquement. Il faut qu'on commence à soutenir la recherche en France pour des processus de tests ultra rapides, salivaires notamment, avec des infrastructures légères, avec des portables, avec des...
C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, oui.
Et ça, toutes les biotech du secteur disent on a fait des efforts sur les vaccins, ça n'a pas très bien marché. Il ne faut pas oublier les traitements, parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas se faire vacciner, qu'il va falloir traiter, et il faut penser à ça. Toute l'infrastructure de tests, parce qu'il va falloir tester massivement la population dans les années à venir probablement.
Bien.
Et donc ça, il faut qu'on ait nos solutions.
Bien, merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du jeudi. Merci à vous.
Europe 1, Julien Buchy.
Vous restez avec nous dans un instant, le journal, toute l'info, 19h, et le grand débat du Club des Idées. On parlera ce soir et on tentera de comprendre cette menace du fléau des pirates du numérique qui attaque nos hôpitaux et nos entreprises. De plus en plus, le gouvernement vient d'annoncer une enveloppe d'1 milliard d'euros pour s'en prémunir. A tout de suite.
Europe 1, écoutez le monde changer.